Jeannot et le vin vert. Une très ancienne famille de tanneurs d'Issoudun, ville de Parchemin, vivait non loin de l'hospice dédié à Saint-Roch, patron de la corporation des Mégissiers. L'unique héritier, encore jeune, de cette auguste et modeste lignée s'appelait Jean, mais tout le monde le surnommait Jeannot. Ses yeux étaient bleus, très clairs, ses longs cheveux bouclés d'un noir profond rappelaient les plumes de ces petits corbeaux qui font leur nid dans les beffrois. Le garçon était si beau que toutes les jeunes filles lui tournaient autour. La petite famille avait connu des jours meilleurs. La guerre n'était pas propice à la vente de livres et de ce commerce dépendait l'existence de ces pauvres tanneurs dont les peaux très recherchées servaient à la reliure. Le fils unique, si beau, si enjoué, était, avec leur vieil atelier et quelques piécettes d'argent, tout ce qui leur restait. Un jour, alors que l'on fêtait chichement les noces d'un voisin, il prit au père de Jeannot la fantaisie de lui faire goûter le vin vert que sa sœur, la vieille Artémise, avait coutume d'amener partout où le vent l'apportait. L'enfant n'aima guère le goût amer de cette boisson. Et que dire de la sensation d'oubli qu'elle lui procura ? Le petit homme en perdit la mesure durant le branle, si bien qu'il blessa plusieurs fois les pieds de ses cavalières. Et Dieu que ce vin vert faisait mal à la tête. « À quoi bon en boire ?» se dit Jean, « si c'est pour s'oublier et le regretter ensuite. » Le père de Jeannot, lui, aimait boire de ce vin. Sa sœur lui en donnait journellement, gratis, ce qui n'était pas pour plaire à sa femme. Elle s'était mariée à un jeune tanneur, travailleur et aimable. Malheureusement, l'homme que son époux était devenu à force de boisson avait tout du crétin. Inconséquent, feignant, roublard, les mots manquent pour peindre sa dégradation. Un beau matin, la mère quitta la maison sans rien dire, avec l'idée de ne plus y revenir, laissant derrière elle la misère, son pénible époux et leur jeune fils. Sûrement en conçut-il des regrets, mais jamais elle ne revint. Les jours suivants, Jeannot connut la plus grande mélancolie. Il se dit que si sa mère était partie, c'est qu'il méritait qu'on l'abandonnât. De ce jour, trois diabletots lui tournèrent autour de la tête, l'accablant sans cesse d'injures et de toutes sortes d'idées noires. Jeannot crut que ces petits démons finiraient par partir, mais il se détrompa vite. Il se réveillait la nuit, lui faisait faire des cauchemars, le vidait de ses forces, l'emplissait de désespoir. Heureusement, Jeannot connut un jour l'amour, et les trois petits diablotins s'en allèrent alors enfin. Jeannot aimait sa bonne amie et travaillait dur pour aider son vieux père. Il était devenu un jeune homme bon et juste et se préparait à demander sa compagne en mariage. Toutefois, si celle-ci aimait bien son Jeannot, elle redoutait la pauvreté dans laquelle il vivait. Elle préférait ne pas confesser ses craintes pour éviter de blesser son ami. Le temps lui dirait si cet amour était fait pour durer. Un soir d'été, alors que l'on fêtait l'apôtre Saint-Barthélemy, patron des bouchers, et avec Saint-Roch, protecteur des tanneurs et des relieurs, la bonne amie de Jeannot ne put s'empêcher, le vin aidant, d'aller fricoter avec le fils d'un riche relieur de Bourges, invité par la corporation des Mégissiers Isoldunois. Notre pauvre petit tanneur, se sentant abandonné, ne songea même pas à restaurer son honneur. Il gagna les faubourgs seul. ou bien plutôt accompagné de trois compères, depuis longtemps restés en sommeil. Jeannot pleura beaucoup cette nuit-là. Nous tairons ici les outrages des diabletots. Il marcha par toute la ville sans accrocher le regard de personne. Sa rage et son malheur étaient tels qu'il pensa un moment à se donner la mort. À l'aube, Jeannot retourna à la fête un peu calmé et trouva attablé dans la cour de la maison des tanneurs de bons et vieux amis qui jouaient aux cartes, badinant et parlant fort, grisés par le vin. Il y avait là tante Artémise qui riait comme une jument. Ses joues plutôt rouges que le cul d'un porcelet qui vient de naître. Jeannot accepta le verre qu'on lui tendit, et bien qu'il fût rempli de ce vin vert qu'il se rappelait pour amer et capiteux, il le vit là d'un trait, sans discuter. L'instant d'après, à sa grande surprise, les diablotins étaient partis. Si ces derniers ne l'avaient pas troublé à force de méchanceté, Jeannot se serait rappelé que l'oubli du vin vert si rapide, si doux, se payait cher. Jeannot se réveilla vers le midi tout étourdi. Il passa le reste de la journée dans la grange du maître de la corporation sur un tas de foin, à écouter ses diabletots lui lancer des moqueries. Ses troubles faits étaient revenus pour de bon. Le jeune tanneur rentra chez lui au soir, pour trouver son père mort au pied de l'échelle qui menait au grenier. Un vieil homme, lui aussi étourdi par le vin, devait avoir manqué un barreau et perdu l'équilibre. On amena le corps du pauvre homme, on dit quelques prières, puis Jeannot, laissé seul, déboucha une bouteille de vin vert en souvenir de son vieux. Il but jusqu'à plus soif, jusqu'à défaillir. Vers minuit, une voix le réveilla, c'était celle de son père, dont le fantôme se tenait devant lui. Jeannot était trop hébété par l'alcool pour se surprendre une telle visite. Le visage du vieux tanneur était encore marqué par une vie de travail et de boisson, mais ses yeux étaient ceux d'un jeune homme plein de vie. La mort l'avait transfiguré. « Papa, » dit péniblement Jeannot, « c'est toi ?» Pour toute réponse, le fantôme lui sourit avant de disparaître. Jeannot fouilla l'obscurité de ses yeux en vain, mais la voix de son père bientôt s'invita dans son esprit. « Boire pour le plaisir et pas pour toujours. Boire pour se réjouir, non pour du secours. Boire pour se nourrir ou mort. » Et des amours. Voilà le début de Jeannot et le vin vert. Nous sommes à la moitié de ce conte. Eh bien, pour savoir la fin, achetez Nouveau Conte du Berry, Sébastien de Gorce, aux éditions de Gorce, et c'est distribué par La Bouinotte.